Onde.
Ça sera terminé. Il faudra partir.
Partir et tout laisser. J'ai 6 ans et je viens de troquer ma langue maternelle berbère toute moche et qui ne sait même pas s'écrire d'abord contre la super langue française avec sa chorégraphie de règles complexes et même que ça me donne à faire de la gymnastique que j'aime bien dans ma tête. J'ai 7 ans et j'ouvre un carnet rouge. Ma mère travaille la pâte à pain. Non pas avec ses mains, mais avec son poing. Elle lutte contre la pâte pour qu'elle se lève et tous ses rêves restent couchés. À tout moment, la table en formica peut se démolir et je la retiens avec mes petits poèmes, petits poissons ou beaucoup de bonbons. Sur un coin de table, je remplis mon carnet rouge qui gonfle de farine, de levure et d'eau chaude. Et je fais lire mon carnet à mon maître d'école. C'est pas un métier, écrire, c'est une passion. Ah bon? J'ai 13 ans et j'écris ma première histoire dans un cahier bleu. Ça s'appelle Vanille et chocolat. Histoire d'une fille amoureuse qui fugue, histoire d'amour impossible. Roméo et Juliette façon fille du Nord, quoi. Le genre de truc qui nous fait vibrer et auquel on croit encore à cet âge-là. Et je fais ça sérieusement. J'économise des pièces de 20 centimes et de 1 franc. J'attends le 1er mai, jour du marché aux puces de Halloween, et m'en vais acheter une machine à écrire. C'est long à taper avec un seul doigt. 40 pages d'écriture aidées par ma copine Ghislaine Godefroy. C'est long pour marcher jusqu'à la poste en haut de la mairie, envoyer son paquet à un éditeur masqué qui ne répond jamais. La conseillère d'orientation répond. Mais enfin, c'est pas un métier écrire, c'est une passion. Ah bon? J'ai 17 ans, bac L en poche. Je fais mes lettres supérieures et là-bas c'est tout le monde il écrit bien. Tout le monde il écrit tellement bien. Même Madame Aïe, la prof de lettres agrégée, elle passe ses heures à étudier les meilleures écritures contemporaines. Tout le monde y écrit tellement bien. À l'heure où il faut choisir pour de bon, Pôle emploi répond. Mais enfin, c'est pas un métier écrire, c'est une passion. Ah bon? Paris, septembre 2018. Madame, notre comité de lecture n'a pas retenu votre manuscrit. Vous pouvez le récupérer dans un délai d'un mois, moyennant l'envoi de timbre. Au-delà, il sera détruit.
Sinon, côté perso, moi j'ai l'impression que j'ai pas trop réussi à construire une famille, un peu comme tout le monde. Et vous, aux amours, ça va? Vous connaissez fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes? À un moment donné, Roland Barthes évoque le moment où sur le visage de l'être aimé apparaît un point d'altération. En l'occurrence, là, il s'agit d'un petit bouton sur le nez. Aimer. Est-ce qu'on peut aimer l'être aimé? Aimer l'autre en claquettes, baskets, en tongs et pyjama dégueulasse. Le visage et le dos déglingué par ses incapacités. Aimer au travers de ses trous, de ses travers. Aimer, ses désaffections, ses disqualifications. Aimer, l'être aimé au chômage, fin de contrat, fin de combat. Quand il tombe et retombe, quand on n'en peut plus, quand on est à bout, on voudrait partir. Peur d'être contaminé. Aimer encore, étirer. Tirer l'élastique et les limites des latitudes d'aimer. Travailler l'amour comme une pâte. Engager l'amour dans ses carcasses. Aimer nos amours ratés. Après les morceaux de verre à terre, ou comme on aime une cafetière italienne à laquelle on tient parce qu'on l'a chinée, même qu'elle est cassée, il ne sert à rien. Rien n'enlèvera l'histoire qu'on a eue avec. Aimer le lien et quitter. Laisser l'autre partir, aimer quand même. Derrière l'amour, le lien. D'autres formes d'aimer à venir qu'on n'a pas explorées. Aimer plus loin que l'amour même, même sans papier, pris dans des sables mouvants, mutilés, empêtrés, sans patrie, sans plan B, fuyant un pays en guerre, ruiné, le prendre avec le corps gisant ailé de tout ce qu'il a manqué et qui nous effraie. Et c'est quoi la liste des trucs improbables que vous avez pu faire parfois face à votre peur de rater? Moi, je sais que parfois, j'ai l'horoscope, je suis une scorpion. Et en fait, un jour, une copine, mais franchement, j'ai honte, mais je le dis quand même, elle a vraiment fait, et ben, je suis allée voir une voyante.
Attention, l'homme raté est une invention qui permet de maintenir le système en place. Aucune vie échouée. Nous avons échoué dans le monde au sens où nous avons dérivé dans la nuit, atterri ici. Mes chers insuccès, mes manques, mes ratés, mes loupes, mes loupés, mes petits chats borgnes, mes petites pattes arrière cassées, mes mignonnes molles, mes bides, mes bidons, mes grosses catastrophes, mes petites folles, toutes mes batailles perdues d'avance dans le trou noir de l'univers qui s'avance. Mes essayades sur des chantiers abandonnés et mes amours blouses, mes casse-gueules, mes volontés vaincues et mes causes perdues, mes choses mal supportées, mes incertitudes, mes déconfitures, mes désastres chéris. Venez prendre le goûter à la maison aujourd'hui vers 4 heures. Je ferai des crêpes avec plein de trous, des gaufres cramées, du café trop fort avec dedans du lait qui aura tourné, et on jouera une partie de Scrabble avec des lettres qui manquent. On se rappellera qu'au fond, la vie, c'est une histoire qu'on s'invente.
vient de voir un extrait de Confidence publique, toutes les choses que je n'ai pas su faire. Donc une performance que tu avais fait au Vivat en janvier dernier. C'est comme ça qu'on l'avait découverte. Samira El-Hayashi est romancière et autrice pour le spectacle vivant. Elle a ce goût et cette attention pour les petites, pour celles qui échouent, se font refuser, se font empêcher, celles qui n'ont pas le temps, celles qui n'ont le temps de rien, mais qui doivent tout faire. Son dernier ouvrage, Les femmes sont occupées, paru cette année aux éditions de l'Aube, parle de solitude, de lutte aussi, de temps qui manque, de l'intime politique, de la force et de la puissance des femmes.
Est-ce que déjà vous pourriez nous parler de ce bout de performance, parce que c'est un extrait de Confidence publique, mais qui est la plus grosse performance.
Merci de l'invitation déjà. Oui, que dire, cette performance, je l'ai écrite, je l'ai rêvée très très fort dans ma chambre, dans un moment un petit peu compliqué, où effectivement, comme je le dis dans ma performance, j'avais déjà publié deux romans et je me trouvais face à des refus pour mon roman qui finalement a été publié, bref. Mais c'était quand même très étonnant d'être à un moment de mon existence avec une mémoire de l'échec. On voit un peu mon papa clairement interrogé, qui me dit « mais j'aurais voulu que tu sois prof agrégé d'économie ». C'est juste hallucinant. Donc il y a une forme comme ça de mémoire de qu'est-ce qu'une vie réussie, qu'est-ce que c'est qu'un ici. J'avais besoin de partager cette réflexion, mais c'est vrai que je devais la mener un petit peu seule en mon coin. Parce qu'il y a quelque chose d'étrange avec la sensation de refus. C'est que d'abord, il y a la douleur. Moi, je pense qu'on le dit, on le sait, mais c'est vraiment un sentiment profond dont j'ai essayé de parler un petit peu dans cet extrait. Il y a d'abord cette douleur de l'échec, vraiment existentielle. Le « qu'est-ce que je viens faire sur Terre ?» face à quelque chose que l'on porte depuis longtemps, non, pour le coup, là, clairement depuis l'enfance, et quand on se retrouve face à une expérience de refus d'un travail qu'on a mené pendant plusieurs mois, plusieurs années, etc. Et donc, après cette douleur-là, il y a très étonnamment un sentiment de honte. Et c'est bizarre, cette double punition, j'ai envie de dire, à la fois d'être face à une expérience assez douloureuse et de tenter de la masquer, de surtout pas la dire. Ça m'interrogeait, je me suis dit, mais finalement, quelle place pour la vulnérabilité dans notre civilisation? Je pense que dans d'autres régions du monde, c'est différent. Mais là, précisément, être un moment dans l'existence où, bah oui, voilà, j'ai déjà publié deux fois, encore une fois, on se retrouve face à un moment de vulnérabilité et de ne pas pouvoir en parler. Je me suis rendu compte que voilà, il y avait cette double émotion où en travaillant effectivement dans le milieu du théâtre et en faisant complètement autre chose que le théâtre, puisque effectivement j'aime les formes un peu comme ça, petites, c'est une confidence, c'est pas une conférence que je donne, je me suis dit mais peut-être que finalement cette expérience intime, peut-être d'autres la vivent. Donc j'ai commencé à interroger des gens sur ce qu'ils avaient regretté, sur ce qu'ils pensaient avoir manqué, et on se rend compte que c'est une expérience tout à fait universelle, et que dès qu'on va toucher à la question de l'échec, on est ensemble. Et là, c'est intéressant parce que voilà, dans l'expérience dont on parlait précédemment, dont parlait Martin Paz juste avant, il y avait un écho au fait qu'il y a la dimension du collectif qui peut arriver. Parce qu'on vient dire qu'on a loupé quelque chose, alors pas tout le temps, ça dépend à qui on peut en parler, mais quelque chose que l'échec n'a pas prévu, c'est toute la dynamique qui va se mettre autour, des soutiens, des solidarités, l'intelligence qui va se mettre en place, parce qu'on va en parler. Donc voilà, travailler cette... je me suis dit, j'avais envie... On m'avait donné une carte blanche, enfin, qui m'a dit sur quoi tu as envie de travailler en ce moment. Je suis allée en ce moment, c'est l'échec total. Donc, et j'ai écrit cette performance et je suis allée voir Belinda, à qui j'ai dit, que j'avais vu en performance, où elle était sur le synthé, et je lui ai dit, j'aimerais beaucoup travailler avec toi. Je dis, mais moi je suis absolument pas musicienne, hein, je suis plasticienne. Je vais te laisser parler un petit peu de comment tu avais vécu ce. Peut-être ça.
Oui, bah, bonjour. J'étais très étonnée de voir Samira me demander de faire la création musicale de sa performance. C'est la première fois qu'on me faisait ce genre de proposition. Donc je me suis demandé, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir J'ai qu'à dire oui et puis on verra. Comme c'est sur l'échec. Ça devrait aller. Et puis ce qui est marrant, c'est que finalement, cette question, elle m'a suivie pendant tout le temps de la création. Est-ce que je vais y arriver? Et puis elle m'accompagne encore, parce que voilà, ça reste quelque chose d'assez exceptionnel pour moi de jouer de la musique sur scène. Donc est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir cette phrase musicale? Je ne suis pas du tout guitariste, alors c'est toujours. Il y a toujours un petit stress, mais en tout cas c'était très, très formateur et ben voilà, j'ai appris plein de choses aussi sur moi. Enfin, c'était une chouette expérience. Très réussie en fait. Humainement.
Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de performatif, à savoir pendant la performance quand c'est devenu Rival, donc voilà, c'est un peu plus long. Et puis je suis entourée de plein de gens que j'interroge, il y a plein de vidéos drôles, décalées. J'adore ces rires-là. Et effectivement, il y a quelque chose de performatif où à tout moment, je pouvais m'effondrer en fait, parce que voilà, on ne savait pas trop où on allait. Puis on sentait que le public nous portait, c'est ça qui était beau, c'est qu'au bout d'un moment, on sent que le public est avec nous et qu'il y a quelque chose de performatif où on sent que c'est une expérience très universelle. Et quand on commence à parler de la notion d'échec, on peut commencer à y réfléchir à un autre endroit que l'expérience intime. Alors là, on ne le voit pas pour moi un tout petit peu dans l'extrait que j'ai choisi, mais évidemment pour moi il y a un propos politique derrière, puisque évidemment on renvoie à l'individu propre, ça, et dont les femmes sont occupées, c'est aussi le propos de mon roman, le fait qu'il ait réussi, entre guillemets, ou a raté sa vie, c'est une violence incroyable. C'est toujours l'échec de ou la réussite par rapport à quoi, par rapport à quelque chose, quels sont les critères finalement, qui définit ces critères, donc ça c'est intéressant. Donc, le propos politique, c'est que pour moi derrière, c'est que effectivement il y a une violence de classe derrière, c'est quels critères on utilise, et peut-être qu'il y a eu la violence capitaliste qui fait que réussir, c'est réussir économiquement sa vie, entre guillemets, réussir telle ou telle chose, même sa famille, un papa, une maman, des enfants, sauf que c'est tellement puissant et tellement prenant. On n'arrive plus à le voir quand on se retrouve tout seul dans son coin, face à la puissance du modèle dont on est travaillé depuis, je ne sais pas combien de siècles, sur ce que c'est finalement la famille, le travail, la réussite. Et puis, dans la performance, ce que j'ai écouté, ce dont je parle surtout, c'est, et encore ça fait juste écho à ce que dit Martin Paz juste avant, il me semble, c'est à la fin d'une existence, peut-être, dans les moments d'expérience douloureuse, quand on se retourne, il y a un truc étonnant qu'on n'avait pas vu, ce sont les liens. La force des liens, quels qu'ils soient, les liens qu'on a réussi à créer, contre le sujet qui réussit seul. Il y a le nous, il y a le je, et c'est vraiment dans ce travail-là que finalement, dans les moments d'échec, souvent, parce que je pose une question, j'ai posé la question à 50 personnes, je vous jure, à la fin, je leur ai dit, mais c'est quoi pour vous une vie réussie? De toute façon, je ne vais pas refaire la performance, on ne va pas me programmer ici à la Maison Folie, donc je peux spoiler, c'est pas grave. C'est quoi pour vous une vie réussie? J'ai posé la question à 50 personnes dans mon entourage, des gens que je croisais dans la rue, entière, au vivac, en résidence, dans les cafés, je m'arrêtais justement, c'est le genre. Et c'est vrai que tous m'ont dit, en fait, à aucun moment quelqu'un m'a dit c'est le jour où j'ai eu le grand coup, je plaisante, c'est le jour où j'ai réussi telle ou telle chose d'un point de vue professionnel. C'était uniquement des moments de vie, des moments de suspension, souvent avec l'autre. C'est un moment vraiment très précis, très lumineux, où bah, j'étais là sur la plage avec ma fille, où j'ai fait telle ou telle chose, c'est un moment merveilleux, etc. Et là, je me suis dit, finalement, en fait, on écrit ou j'écris, parce que je pense, il me semble que nous sommes des êtres de langage et des êtres de relation. Le langage, c'est chiant, c'est voué à l'échec. Enfin, je pense que bon, j'écris parce qu'il y a un échec originel. C'est qu'il est difficile de toucher l'autre ou de dire à l'autre des choses. Donc, l'écriture, ben, c'est le moyen, le médium par lequel je vais tenter de réduire, en prenant le temps de choisir mes mots, en prenant le temps d'écrire dans la durée quelque chose de complexe, de rajouter de la complexité au réel. Et c'est tenter de réduire cet échec-là. Donc voilà, nous sommes des êtres de relation et finalement, j'ai pu vivre. Il y a quelque chose où je me suis peut-être guérie un peu toute seule avec cette performance. Où j'ai pu goûter que, retournons à la question d'un point. point de vue politique, qu'est-ce que l'échec en réalité, et comment on n'arrête pas de dire des gens que c'est de leur faute, ils en sont dans cette situation-là, et c'est terrible, ça crée des drames incroyables, donc il y a une responsabilité du collectif, du politique à repenser ou à redonner à chacun son caractère irremplaçable.
Et puis, parce qu'il y a aussi un espèce de poids de la culpabilité aussi quand on échoue, de solitude aussi. Et enfin, ça c'est un truc aussi dont tu parles beaucoup dans tes trois romans en fait, des personnages qui échouent à plusieurs degrés, disons plusieurs aspects de leur vie ou de leur mort. Et est-ce que tu pourrais parler un peu de ça, de ton attention à ces personnages qui sont dans un interstice, quoi, une espèce de faille qui s'ouvre.
Je ne l'ai pas fait exprès, mais oui, je réalise qu'en fait, je suis très intéressée par la violence que l'on reçoit du monde extérieur et que mes personnages ont essayé à chaque fois, par la capacité de créativité justement peut-être, à quand même essayer d'advenir en tant que sujet dans une société où elle reçoit beaucoup d'injonctions policières. Effectivement, 40 jours après ma mort, c'est un peu ma réponse à cette époque terrible qu'on a vécue autour de 2005 où quelqu'un a essayé à tout prix de devenir président de la République. Et c'est le truc terrible, c'est qu'il a réussi. Et on a eu le droit à un moment donné à une question, mais délirante, ubuesque, genre, je sais pas, il n'y a pas de mot pour qualifier l'absurdité de cette injonction à dire qui je suis absolument aujourd'hui. Et évidemment, il y a ce propos d'Amin Malouf qui parle des identités meurtrières. Moi, ce personnage-là se retourne sur son existence et dit voilà la somme de tout ce que j'ai été rétrospectivement. Et c'est plein de dispositions contradictoires, dissonantes, c'est fouillis, c'est incroyable. Mais par contre, il y a quelque chose de dangereux à vouloir dire qui nous sommes. Et c'est, effectivement, j'ouvre ce roman par une citation de Fernando Pessoa qui dit qu'il y a une colonie d'êtres, je ne sais plus exactement, pardon, une colonie d'êtres qui sentent et pensent différemment qu'en moi. Nous sommes constitués de ces voix disparates. Et peut-être, Bélinda, je ne sais pas si tu veux intervenir sur cette notion d'échec et dans la création.
Oui, ben je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, dans mon travail, j'aime bien travailler sur les erreurs, par exemple. Donc, les erreurs de, par exemple, j'ai travaillé sur le thème du sens de l'orientation et de la perception du paysage et la cartographie, etc. En fait, j'ai mené pas mal d'ateliers où on essayait de parler de nos problèmes, de nos erreurs de perception de l'espace et comment tout ça pouvait devenir, comment intégrer ça et en faire quelque chose de poétique. Et donc j'ai essayé de construire un travail tout autour de ça et essayer de voir les erreurs comme quelque chose de poétique et aussi quelque chose de singulier qui représente un peu chaque personne. C'est pas très clair ce que je dis, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup dans la pratique en général, dans le dessin aussi. J'aime bien travailler, faire dessiner les autres et travailler, oui, sur ce qui fait qu'on est, sur le côté, disons que la technique, réussir un dessin, que ce soit bien fait, tout ça, ça m'intéresse pas. Et c'est vrai que quand on fait des ateliers, quand on travaille avec les autres, on a beaucoup ce retour-là, je sais pas faire, je sais pas dessiner. Et donc essayer de mettre l'accent sur ce qui fait que quelqu'un a quelque chose à apporter aux autres, à moi aussi. Et donc voilà. C'est quelque chose qui m'intéresse, en tout cas la fragilité aussi, mais en tant que spectatrice, quand je vois des choses où à un moment donné je sens une vulnérabilité ou une fragilité, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà.
J'ai eu le bonheur de partager le temps confident avec Samira ce prénom d'ailleurs de se réentendre par
la voix, par des choses.
Voilà. Et en fait, moi j'en suis sortie soulagée, dans le sens où ces échecs ou ces non-réussites, ces non-aboutissements, ça m'a donné une réflexion sur moi-même, et aujourd'hui je m'en suis totalement libérée.
Je réfléchissais à quelque chose en revoyant mon père, et je me disais que c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'échec qui fait partie de ma famille, je le pense sincèrement. Et en même temps, ça m'a beaucoup inspirée, parce que quand tu vois, dans la musique rail, par exemple, il y a toujours une espèce de refrain qui vient comme ça, qui dit « La daraï, c'est ma vie, c'est pas de ma faute ». Enfin, c'est vraiment des choses qui reviennent très 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 souvent. Et en même temps, cette énergie que j'ai pu découvrir à un moment donné, en plus jeune, j'ai vraiment béni dans cette époque du mouvement rap, j'ai vraiment vu des copains aller sur scène et ils n'étaient pas dans cette même énergie que moi. Donc peut-être qu'il y a une différence, il y a un endroit à ce moment-là, entre comment une femme se construit son parcours et comment un garçon va construire son parcours dans l'espace public. Je voyais qu'ils n'en avaient rien à faire. Quand ils ne se faisaient pas programmer, ils venaient, ils étaient chez eux, ils étaient légitimes à prendre l'espace. Et quand le programmateur ne voulait pas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils appelaient directement les tourneurs et ils disaient à Aya, donc je ne sais pas qui, à Sniper, bah, vous me programmez. Et les mecs débarquaient sur scène en guest, en passant par la fenêtre, quoi. On parlait de fenêtre tout à l'heure, bah, ça m'a fait penser un peu cette image-là. Et je me suis rendu compte que moi, il m'a fallu un temps, parce que là, j'arrive, je vous en parle, ouais, l'échec, c'est bien, pas non. En fait, c'est long à s'en rendre compte. Et là encore, je pense qu'on peut parler aussi de classe sociale, d'un parcours où, très clairement, tu veux être comme la classe dominante et tu vas masquer. Moi, quand je suis arrivée en classe préparatoire, parce que mon prof m'avait rempli un dossier, il a dit vous allez faire l'hypocanécale, je ne savais même pas que ça existait. Et j'étais dans une classe où des filles s'habillaient avec des baskets, etc. Et moi, je mettais toujours un petit pantalon noir, une petite chemise blanche, à vouloir absolument être la fille qui fait ses études, qui vient pas forcément d'un milieu ouvrier ou populaire. On masque tout ça et ça prend du temps à les regarder en face. Donc, à un moment donné, la rencontre avec la pensée de Bourdieu, par exemple, moi, ça m'a fait l'effet de « waouh ». Alors, je ne dis pas que ce n'est pas de ma faute, qu'il y a vraiment clairement des choses qui sont liées à une histoire qui nous dépasse. Nous sommes pris dans une histoire qui nous dépasse, dans des liens, dans des structures plus globales. Et effectivement, la littérature, c'est l'espace du jeu. C'est l'espace du jeu, J-E, au sens où on va devoir construire un parcours singulier, retrouver une voie propre dans un espèce de magma terrible où il y a tellement de choses qui nous dépassent. Et il s'agit simplement, mais c'est énorme, de réussir et de prendre la responsabilité de poser sur l'espace public quelque chose d'intime. C'est ça le travail d'écrivain. Quand j'avais écrit mon premier roman, après un long parcours où, même si mon père n'était pas d'accord, j'ai quand même essayé d'être écrivain, parce qu'il disait, mais tu vas faire comme ça, maintenant je dis, tu auras des problèmes. Hallucinant. Bref. Et finalement, j'écris un roman. Et puis après le premier roman, je pars un peu en résidence, et puis je décide de laisser tomber le deuxième roman sur lequel j'étais censée travailler, et je vais toquer chez la porte des gens. Toquer chez les gens, je me mets à récupérer des objets, je voulais travailler sur des objets. Je leur ai demandé de me filer des objets dont ils n'avaient absolument plus besoin et j'ai écrit des petits poèmes là-dessus, de façon Francis Ponge, bref. Et donc j'appelle mon éditeur, j'étais super contente de moi et je dis j'ai écrit des textes à partir d'objets récupérés chez l'habitant et j'en ai fait une lecture chez eux, tout ça. Et elle m'a dit ah super, tu t'es bien amusée, bon alors il est où le deuxième roman? Et là c'était un choc. C'est-à-dire que j'avais pas compris, j'ai oublié de comprendre un truc, c'est qu'il y avait a priori le format roman qui est le format de la littérature française. Alors la nouvelle, pas de place pour les autres formes hybrides, et c'est vraiment d'abord le roman, une certaine catégorie d'écriture. Et moi j'avais envie d'essayer plein de trucs, donc c'est sûr que dans mon parcours il y a aussi la force de la rencontre. Une rencontre ici, pour ceux qui me connaissent, du côté de Lille avec le Prato notamment, et la rencontre avec un clown. Lui travaille justement sur Gilles de Fac au Prato et qui j'ai beaucoup bossé. Et c'était une belle rencontre de voir qu'il y a de la place pour les hésitations, pour l'improvisation, pour le faire, tout comme les rappeurs le font, tout comme les slammers le font. C'est-à-dire qu'un espace pour vivre la littérature autrement. Et sinon, on se laisse confisquer ce que doit être la littérature par un secteur qui a une ligne éditoriale. Soit on rentre pas. Donc moi, mon troisième roman est rentré dans aucune ligne éditoriale. Même mon propre éditeur. éditeur au début m'a lâché, enfin m'a dit non, il fallait que je revienne à la charge. Attends, mais c'est pas possible, il faut que je publie ce texte. À un moment donné, je sais qu'il faut, qu'on aborde cette question. Et cette forme, je suis sûre qu'elle ne dérange pas le public, les lecteurs, je suis sûre qu'ils peuvent la suivre. Et voilà, c'est à un moment donné, soit on entre dans la ligne éditoriale, soit pas. Et voilà.
Et ça fait 3 fois que tu le fais réimprimer.
Oui, voilà,
finalement. La troisième réimpression de Les femmes sont occupées, donc on peut quand même parler d'un succès aujourd'hui.
Disons que tout ça, c'est du plus. Je pense que vraiment, ma responsabilité, c'était de porter dans l'espace public mon roman et d'essayer de trouver les moyens pour continuer à vivre mon écriture. Mais oui, en fait, ils avaient raison, hein, la conseillère d'orientation, mon prof, tout ce dont je parle, c'est vrai que c'est pas un métier d'écrire. Ça, je ne les croyais pas vraiment, mais j'ai découvert qu'il y a la réalité économique, dont on parlait précédemment, qui vient jouer à un moment donné, qu'on le veuille ou pas. Et c'est vrai que, j'ai commencé à comprendre que c'était compliqué, parce que tu vois, je publie tous les 5 ans. Et si les gens savaient, mais dans quelles conditions j'ai parfois écrit ou corrigé mon roman, mais c'est hallucinant. Et donc Bernard Lahire publie en 2006, il me semble, un livre qui s'appelle La condition des écrivains, la double vie des écrivains, dans lequel il explique qu'un écrivain, donc, que seuls 3% des écrivains vivent de leur droit d'auteur, 3%, c'est rien du tout. Donc les écrivains ont un travail pour travailler. Voilà. Et donc je pose cette autre question, la triple vie des écrivaines, on est d'accord. Donc c'est vrai que quel espace pour travailler son travail, c'est étonnant. Qu'est-ce que ça coûte à un homme, bien sûr, mais c'est à une femme de travailler, pas de résidence, enfin, s'il faut partir 6 mois à l'autre bout du monde, on peut peut-être pas. Enfin, voilà. Ça pose énormément de questions sur toutes les embûches et tous les obstacles. Enfin, franchement, faut vraiment le vouloir. C'est vraiment que tu es animé par quelque chose qui te dépasse. Donc oui, c'est du plus que ce soit un succès. Et évidemment, on écrit parce que, comme je disais tout à l'heure, on est des êtres de relation. Donc on veut partager une question, on veut partager un point de vue sur le monde. On l'adresse à l'autre et on l'adresse à soi, évidemment. Mais par contre, après, effectivement, on découvre que la prochaine fois que je donnerai un livre à mon éditeur, ou je ne sais pas qui, il me dira peut-être parce qu'il pose des questions maintenant. Hein, parce que voilà, apparemment, j'ai compris qu'il vérifiait combien de livres on avait vendus précédemment. Non, mais c'est du délire. C'est-à-dire que, comme le disait Martin Page avant, il y a des raisons extra-éditoriales, extra-littéraires. Pourquoi un livre est publié, pourquoi il n'est pas publié, enfin, c'est tellement fou que je suis très intéressée par ces formes à la marge qui existent de micro-édition, par tout ce qui va être en œuvre, toutes les initiatives, toute cette créativité à la marge, qui pour moi, c'est un peu le monde de demain. Où il me semble que ça se passera d'une façon différente, ça c'est sûr, parce que c'est impossible de sortir à la rentrée littéraire 500 romans, et que les libraires n'en peuvent plus, et que les distributeurs eux-mêmes n'en peuvent plus, enfin voilà, c'est un peu du délire, et que certainement il y a d'autres choses qui existent déjà, et on verra ce que ça va donner.
Et toi particulièrement, j'ai l'impression qu'il y a une vraie importance du collectif. Je me rappelle notamment de la soirée de lancement de ton roman, Les femmes sont occupées, où sur scène, tu avais invité, je pense que c'était une dizaine de femmes, qui toutes t'ont posé une question, et qui n'étaient pas forcément des femmes qui étaient du milieu artistique ou littéraire, certaines oui, mais d'autres non, et qui parlaient aussi de leur expérience de pas avoir assez de temps. Et il y a vraiment une femme qui m'a marquée qui me disait qu'elle avait lu ton livre au feu rouge, tellement elle avait peu de temps. Ou une autre qui disait qu'elle se levait avant tout le monde dans la maison pour pouvoir lire, pour pouvoir s'offrir une fenêtre de peut-être 30 minutes, une heure par jour pour pouvoir lire. Est-ce que tu peux parler de ça, peut-être du rapport au collectif et rapport au temps aussi?
Ben oui, pourquoi à un moment donné on a envie d'écrire, enfin non, on écrit, moi je pense que tout le monde écrit, c'est vrai, vraiment cette belle phrase de Nancy Huston qui dit « Nous sommes l'espèce fabulatrice », elle écrit un essai à ce sujet, et plutôt que de lire ou d'écrire, c'est plutôt la dimension de raconter des histoires. Nous sommes une espèce étrange, étonnante, où on a besoin d'entendre des histoires, on observe qu'on nous raconte des histoires, c'est comme ça qu'on se construit, avant même la lecture. Les enfants veulent avoir des bouquins, c'est surtout pour pouvoir être autonome et lire des histoires. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans notre existence pour qu'on s'en éloigne, mais pourtant c'est ce qui fait la spécificité de notre humanité. Et donc, nous avons des identités narratives, nous sommes ce que nous disons être, nous ne sommes rien rien d'autre que cela. Et du coup, c'est intéressant d'être auteur parce qu'on peut changer en permanence de point de vue. Donc, pour répondre à ta question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, bah oui, j'écris des journaux intimes, des cahiers, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie de porter cette question dans l'espace public et de la partager avec d'autres, de vivre l'expérience de l'édition, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un peu une caisse de résonance par rapport à un propos qu'on tient, une question qui nous tient aux tripes. Donc là, clairement, ce roman « Les femmes sont occupées » arrive à un moment où je remarque autour de moi, toutes les femmes sont dans une forme de burn-out latent. On va lâcher le mot, mais c'est comme si c'était un état de fait normal. Hein, c'est normal qu'on soit tout occupé, suroccupé. Qu'est-ce que c'est cette peur du grand vide, du rien? Comment finalement, sans s'en rendre compte, on était un peu travaillé par, pour moi, quelque chose qui était sur lequel le capitalisme s'est largement assis, à savoir développer toutes ces valeurs de performance, de performativité, de rentabilité. Attention, on a peur du vide, on a peur du silence, on a peur du rien, on n'a pas le temps de respirer. Et ces femmes qui n'avaient pas le temps de lire, moi je les voyais à la sortie d'école, je les voyais dans la rue, je parlais avec elles, je trouvais des semblables en face de moi. Et je me suis dit, bon, voilà, il faut un petit peu plonger pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, je pense que à ce moment-là, j'écris et je vais publier quand je pense que je veux contribuer. Pour moi, c'est une contribution. Et je me dis qu'au-delà des drames invisibles que les femmes, donc là, pour l'instant, c'est les femmes en situation dite de monoparentalité, les mères célibataires, l'héroïne qui se retrouve seule avec un enfant, mais au-delà de ce drame invisible qui concerne des millions de femmes en France, c'est comme si ça rendait d'un coup visible ce qu'on attend d'une femme en priorité, à savoir qu'elle s'occupe d'abord de la sphère domestique en priorité. Et la sphère publique, c'est pour les hommes. Alors, et si elle veut s'occuper de la sphère publique, elle se débrouille, il faut d'abord qu'elle s'occupe de la sphère privée. Et donc elle est seule, le moment où elle se retrouve seule avec un enfant, c'est là où ça révèle ce qu'on attend d'une femme contemporaine d'abord. Mais le grand drame qu'on ne voit pas, pour moi, c'est qu'on est coupé de l'apport de ces femmes. On est coupé de leur rapport dans la société. Je ne sais pas, une infirmière qui voudrait travailler, quelqu'un qui voudrait faire une formation, reprendre ses études, une circassienne, une journaliste, je ne sais pas. Dans mon roman, il s'agit d'une femme qui travaille dans le spectacle, qui veut faire sa thèse. Donc, j'ai eu envie Il y a des liens entre la fiction et la réalité pour moi tout le temps. Donc, j'ai eu envie de mettre un peu à l'honneur, c'est un grand mot, mais j'aime ça aussi, tous ces parcours de femmes de la société civile qui viennent dire ce qu'elles. C'était des copines, hein, j'ai invité mes copines, et on avait fait des parcours ensemble à l'école, et puis ben, tout ce qu'elles vivent comme violence pour pouvoir juste travailler. Juste ça, qu'est-ce que ça coûte à une femme de travailler? Surtout qu'on en parlait beaucoup en off, parce que là, Bélina, tu vois, mais c'est des sujets qu'on aborde en off. Ah, t'as vu tout ce qu'on doit faire, et puis ça. Puis en plus, on était embêtés parce qu'on a un projet personnel qui nous tient à cœur. Et finalement, on en parle entre filles. Dès qu'on est entre filles, on va se dire, ah, t'as vu ça, mon enfant est malade, il y a ça à gérer. Et puis dès qu'on va être en situation pro, ben, on n'en parle plus. Donc voilà, j'avais envie de dire, ben, là, parlons-en dans l'espace. Si on renvoyait la question au collectif et on voit que le visage de notre époque ressemble à ça, parce que les femmes n'ont pas leur place dans la société. La moitié de l'humanité, quand même, c'est énorme. On ne peut pas co-construire le monde organisé parce qu'on est trop occupé au sens assiégé pour faire la révolution, pour s'occuper de questions qui concernent pour aller faire les manifestations, pour... voilà. Je suis un peu en colère.
Ouais,
bravo.
Merci.
Et je repense à une émission à laquelle tu étais allée pour parler de ton livre, où la personne qui t'a interrogée te disait c'est l'histoire d'une femme qui est submergée par les événements et tu lui disais non c'est pas ça et puis il continuait et je lui disais c'est fou de pas comprendre que si on te dit de porter une tonne et que t'arrives pas à la porter on te dit ah c'est que t'es submergée par la tonne. C'est évident en fait, il y a tellement à porter que c'est pas quelqu'un qui est submergé, c'est juste la charge est tellement immense que c'est impossible en fait de la contenir quoi.
J'ai envie de dire la forme de ce que j'ai vécu avec la publication, la non-publication du roman, je n'ose même pas dire le nombre de refus que j'ai eu. Donc comme disait Martin Page juste avant, oui, il faut être sacrément fou, têtu. Et moi, comme je l'ai dit, maintenant, il n'y a pas d'autre choix possible. De toute façon, ce n'était pas possible autrement. Il fallait que je trouve une solution. La forme de ce que j'ai vécu ressemble était forcément comme ça, ça devait être galère. Ça devait épouser le sujet ce dont je parlais, hein, donc forcément c'était un peu compliqué. Effectivement, dans la promo, voilà, on parle de TADI, hein, effectivement j'étais seule femme sur un plateau, moi je suis lente, quand je prends la parole, je cherche mes mots, alors que la télé, il faut parler vite, il faut savoir tout de suite ce qu'on veut dire, c'est complètement l'inverse de ce que je suis. Évidemment, c'est un moment un peu, mais je pense que ça se voit, où je suis un peu troublée à me dire mais où est-ce que j'atterris. Et effectivement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de travail, il faut ramer un peu pour essayer d'être entendu au bon endroit. On vient pas là, on fait un travail de romancière, on vient contribuer, on vient porter un propos qu'on a travaillé depuis un moment, et c'est souvent effectivement renvoyé à une question intime, personnelle, un témoignage, non, c'est un propos politique, et effectivement, voilà, j'ai compris qu'il fallait que je le défende.
Merci. Le temps file très vite. Merci beaucoup à toutes les deux. Belinda, je crois qu'on peut te retrouver à l'Auberge Jeunesse. Tu es en résidence. Donc c'est là où on fait notre salon de micro-édition pour ceux qui sont venus au salon de microscopie. Je sais pas s'il y a un temps de fin ou de restitution.
En fait, ça se termine. Il y aura un temps. Je vais revenir parce qu'on va imprimer un livre pour compiler un peu tous les dessins et textes que j'ai produits là-bas, et donc quand le livre sera imprimé, il y aura un petit temps d'inauguration.